Jules Verne, une fantaisie du docteur Oix. Chapitre 1. Comme quoi il est inutile de chercher, même sur les meilleures cartes, la petite ville de Quiquendone. Si vous cherchez sur une carte des Flandres, ancienne ou moderne, la petite ville de Quiquendone, il est probable que vous ne l'y trouverez pas. Quiquendone est-elle donc une cité disparue? Non. Une ville à venir, pas davantage. Elle existe, en dépit des géographes, et cela depuis 800 à 900 ans. Elle compte même 2393 âmes, en admettant une âme par chaque habitant. Elle est située à 13,5 km dans le nord-ouest d'Audenarde et à 15,25 km dans le sud-est de Bruges, en pleine Flandre. Le Var, petit affluent de l'Escaut, passe sous ces trois ponts encore recouverts d'une antique toiture du Moyen-Âge, comme à Tournai. On y admire un vieux château dont la première pierre fut posée en 1197 par le comte Baudouin, futur empereur de Constantinople, et un hôtel de ville à demi-fenêtre gothique, couronné d'un chapelet de créneaux que domine un beffroi à tourelles élevé de 357 pieds au-dessus du sol. On y entend à chaque heure un carillon de 5 octaves, véritable piano aérien dont la renommée surpasse celle du célèbre carillon de Bruges. Les étrangers, s'il n'est jamais venu à Quiquendone, ne quittent point cette curieuse ville sans avoir visité sa salle des Stadhouders, ornée du portrait en pied de Guillaume de Nassau par Brandon, le jubé de l'église Saint-Magloire, chef-d'œuvre de l'architecture du XVIe siècle, le puits en fer forgé qui se creuse au milieu de la grande place Saint-Ernulf, dont l'admirable ornementation est due au peintre forgeron Quentin Metsys, le tombeau élevé autrefois à Marie de Bourgogne, fille de Charles le Téméraire, et qui repose maintenant dans l'église de Notre-Dame de Bruges, etc. Enfin, Quiquendone a pour principale industrie la fabrication des crèmes fouettées et des sucres d'orge sur une grande échelle. Elle est administrée de père en fils depuis plusieurs siècles par la famille Van Tricasse. Et pourtant, Quiquendone ne figure pas sur la carte des Flandres. Est-ce oubli des géographes? Est-ce omission volontaire? C'est ce que je ne puis vous dire. Mais Quiquendone existe, bien réellement, avec ses rues étroites, son enceinte fortifiée, ses maisons espagnoles, sa halle et son bourgmestre, à telle enseigne qu'elle a été récemment le théâtre de phénomènes surprenants, extraordinaires, invraisemblables autant que véridiques, et qui vont être fidèlement rapportés dans le présent récit. Certes, il n'y a aucun mal à dire ni à penser des Flamands de la Flandre occidentale. Ce sont des gens de bien, sages, parcimonieux, sociables, d'humeur égale, hospitaliers, peut-être un peu lourds par le langage et l'esprit, mais cela n'explique pas pourquoi l'une des plus intéressantes villes de leur territoire n'en est pas encore à figurer dans la cartographie moderne. Cette omission est certainement regrettable. Si encore l'histoire, ou à défaut de l'histoire, des chroniques, ou à défaut des chroniques, la tradition du pays faisait mention de Quiquendone. Mais non, ni les atlas, ni les guides, ni les itinéraires n'en parlent. Monsieur Johan lui-même, le perspicace dénicheur de bourgade, n'en dit pas un mot. On conçoit combien ce silence doit nuire au commerce, à l'industrie de cette ville. Mais nous nous hâterons d'ajouter que Quiquendone n'a ni industrie ni commerce, et qu'elle s'en passe le mieux du monde. Ses sucres d'orge et ses crèmes fouettées, elle les consomme sur place et ne les exporte pas. Enfin, les Quiquendoniens n'ont besoin de personne. Leurs désirs sont restreints, leur existence est modeste. Ils sont calmes, modérés, froids, flegmatiques, en un mot, flamands, comme ils s'en rencontrent encore quelquefois entre l'Escaut et la mer du Nord. Chapitre 2, où le bourgmestre Ventricas et le conseiller Niklos s'entretiennent des affaires de la ville. Vous croyez ? Demanda le bourgmestre. Je le crois, répondit le conseiller après quelques minutes de silence. C'est qu'il ne faut point agir à la légère, reprit le bourgmestre. Voilà 10 ans que nous causons de cette affaire si grave, répliqua le conseiller Niklos. Et je vous avoue, mon digne Ventricas, que je ne puis prendre encore sur moi de me décider. Je comprends votre hésitation, reprit le bourgmestre, qui ne parla qu'après un bon quart d'heure de réflexion. Je comprends votre hésitation et je la partage. Nous ferons sagement de ne rien décider avant un plus ample examen de la question. Il est certain, répondit Niklos, que cette place de commissaire civil est inutile dans une ville aussi paisible que Quiquendone. Notre prédécesseur, répondit Ventricas d'un ton grave, notre prédécesseur ne disait jamais, n'aurait jamais osé dire qu'une chose est certaine. Toute affirmation est sujette à des retours désagréables. Le conseiller hocha la tête en signe d'assentiment, puis il demeura silencieux une demi-heure environ. Après ce laps de temps, pendant lequel le conseiller et le bourgmestre ne remuèrent pas même un doigt, Niklos demanda à Ventricas si son prédécesseur, il y avait quelque 20 ans, n'avait pas eu comme lui la pensée de supprimer cette place de commissaire civil qui, chaque année, grevait la ville de Quiquendone d'une somme de 1 375 francs et des centimes. En effet, dit le bourgmestre qui porta avec une majestueuse lenteur sa main à son front limpide, en effet, mais ce digne homme est mort avant d'avoir osé prendre une détermination, ni à cet égard, ni à l'égard d'aucune autre mesure administrative. C'était un sage. Pourquoi ne ferais-je pas comme lui ? Le conseiller Niklos eût été incapable d'imaginer une raison qui pût contredire l'opinion du bourgmestre. L'homme qui meurt sans s'être jamais décidé à rien pendant sa vie, ajouta gravement Ventricas, est bien près d'avoir atteint la perfection en ce monde. Cela dit, le bourgmestre pressa du bout du petit doigt un timbre au son voilé qui fit entendre moins un son qu'un soupir. Presque aussitôt, quelques pas légers glissèrent doucement sur les carreaux du palier. Une souris n'eut pas fait moins de bruit en trottinant sur une épaisse moquette. La porte de la chambre s'ouvrit en tournant sur ses gonds huilés. Une jeune fille blonde, à longues tresses, apparut. C'était Suzel Ventricas, la fille unique du bourgmestre. Elle remit à son père, avec sa pipe bourrée à point, un petit brasereau de cuivre, ne prononça pas une parole et disparut aussitôt sans que sa sortie eût produit plus de bruit que son entrée. L'honorable bourgmestre alluma l'énorme fourneau de son instrument et s'effaça bientôt dans un nuage de fumée bleuâtre, laissant le conseiller Niklos plonger au milieu des plus absorbantes réflexions. La chambre dans laquelle causaient ainsi ces deux notables personnages, chargés de l'administration de Quiquendone, était un parloir richement orné de sculptures en bois sombre, une haute cheminée, vaste foyer dans lequel eût pu brûler un chêne ou rôtir un bœuf, occupait tout un panneau du parloir et faisait face à une fenêtre à treillis dont les vitraux peinturlurés tamisaient doucement les rayons du jour. Dans un cadre antique, au-dessus de la cheminée, apparaissait le portrait d'un bonhomme quelconque attribué à Hemling, qui devait représenter un ancêtre des Ventricas, dont la généalogie remonte authentiquement au XIVe siècle, époque à laquelle les Flamands et Guy de Dampierre eurent à lutter contre l'empereur Rodolphe de Habsbourg. Ce parloir faisait partie de la maison du bourgmestre, l'une des plus agréables de Quiquendone. Construite dans le goût flamand et avec tout l'imprévu, le caprice, le pittoresque, le fantaisiste que comporte l'architecture ogivale, on l'a cité entre les plus curieux monuments de la ville. Un couvent de Chartreux ou un établissement de Sourd-Muet n'eussent pas été plus silencieux que cette habitation. Le bruit n'y existait pas. On n'y marchait pas, on n'y glissait. On n'y parlait pas, on y murmurait. Et cependant, les femmes ne manquaient point à la maison qui, sans compter le bourgmestre Ventricasse, abritait encore sa femme, Madame Brigitte Ventricasse, sa fille, Suzelle Ventricasse, et sa servante, Loce Gianseu. Il convient de citer aussi la sœur du bourgmestre, la tante Hermance, vieille fille répondant encore au nom de Tatanémance, que lui donnait autrefois sa nièce Suzelle, du temps qu'elle était petite fille. Eh bien, malgré tous ces éléments de discorde, de bruit, de bavardage, la maison du bourgmestre était calme comme le désert. Le bourgmestre était un personnage de 50 ans, ni gras, ni maigre, ni petit, ni grand, ni vieux, ni jeune, ni coloré, ni pâle, ni gai, ni triste, ni content, ni ennuyé, ni énergique, ni mou, ni fier, ni humble, ni bon, ni méchant, ni généreux, ni avare, ni brave, ni poltron, ni trop peu, ni quid, ni miss, un homme modéré en tout. Mais à la lenteur invariable de ses mouvements, à sa mâchoire inférieure un peu pendante, à sa paupière supérieure immuablement relevée, à son front uni comme une plaque de cuivre jaune et sans une ride, à ses muscles peu saillants, un physionomiste eut sans peine reconnu que le bourgmestre Ventricasse était le flegme personnifié. Jamais, ni par la colère, ni par la passion, jamais une émotion quelconque n'avait accéléré les mouvements du cœur de cet homme, ni rougi sa face. Jamais ses pupilles ne s'étaient contractées sous l'influence d'une irritation, si passagère qu'on voudrait la supposer. Il était invariablement vêtu de bons habits, ni trop larges, ni trop étroits, qu'il ne parvenait pas à user. Il était chaussé de gros souliers carrés à triple semelle et à boucles d'argent, qui, par leur durée, faisaient le désespoir de son cordonnier. Il était coiffé d'un large chapeau qui datait de l'époque à laquelle la Flandre fut décidément séparée de la Hollande, ce qui attribuait à ce vénérable couvre-chef une durée de 40 ans. Mais que voulez-vous ? Ce sont les passions qui usent le corps aussi bien que l'âme, les habits aussi bien que le corps, et notre digne bourgmestre, apathique, indolent, indifférent, n'était passionné en rien. Il n'usait pas et ne s'usait pas, et par cela même, il se trouvait précisément l'homme qu'il fallait pour administrer la cité de Quiquendone et ses tranquilles habitants. La ville, en effet, n'était pas moins calme que la maison Ventricasse. Or, c'était dans cette paisible demeure que le bourgmestre comptait atteindre les limites les plus reculées de l'existence humaine, après avoir vu toutefois la bonne Madame Brigitte Ventricasse, sa femme, le précéder au tombeau où elle ne trouverait certainement pas un repos plus profond que celui qu'elle goûtait depuis 60 ans sur la terre. Cela mérite une explication. La famille Ventricasse aurait pu s'appeler justement la famille Jeannot. Voici pourquoi. Chacun sait que le couteau de ce personnage typique est aussi célèbre que son propriétaire et non moins inusable grâce à cette double opération incessamment renouvelée, qui consiste à remplacer le manche quand il est usé et la lame quand elle ne vaut plus rien. Telle était l'opération, absolument identique, pratiquée depuis un temps immémorial dans la famille Ventricasse et à laquelle la nature s'était prêtée avec une complaisance un peu extraordinaire. Depuis 1340, on avait vu invariablement un Ventricasse devenu veuf se remarier avec une Ventricasse plus jeune que lui, qui, veuve, convolait avec un Ventricasse plus jeune qu'elle, qui, veuf, etc., sans solution de continuité. Chacun mourait à son tour avec une régularité mécanique. Or, la digne Madame Brigitte Ventricasse en était à son deuxième mari, et à moins de manquer à tous ses devoirs. Elle devait précéder dans l'autre monde son époux de 10 ans plus jeune qu'elle, pour faire place à une nouvelle ventricasse, sur quoi l'honorable bourgmestre comptait absolument, afin de ne point rompre les traditions de la famille. Telle était cette maison, paisible et silencieuse, dont les portes ne criaient pas, dont les vitres ne grelottaient pas, dont les parquets ne gémissaient pas, dont les cheminées ne ronflaient pas, dont les girouettes ne grinçaient pas, dont les meubles ne craquaient pas, dont les serrures ne cliquetaient pas et dont les hôtes ne faisaient pas plus de bruit que leur ombre. Le divin Harpocrate l'eût certainement choisi pour le temple du silence. Chapitre 3, où le commissaire Passoff fait une entrée aussi bruyante qu'inattendue. Lorsque l'intéressante conversation que nous avons rapportée plus haut avait commencé entre le conseiller et le bourgmestre, il était 2h15 après-midi. Ce fut à 3h45 que Ventrika s'alluma sa vaste pipe qui pouvait contenir un quart de tabac, et ce fut à 5h35 seulement qu'il acheva de fumer. Pendant tout ce temps, les deux interlocuteurs n'échangèrent pas une seule parole. Vers 6h, le conseiller, qui procédait toujours par prétermission ou apostiopèse, reprit en ces termes. « Ainsi, nous nous décidons à ne rien décider, » répliqua le bourgmestre. « Je crois en somme que vous avez raison, Ventricas. Je le crois aussi, Niklos. Nous prendrons une résolution à l'égard du commissaire civil quand nous serons mieux édifiés, plus tard, où nous ne sommes pas à un mois près. » « Ni même à une année, » répondit Niklos en dépliant son mouchoir de poche, dont il se servit d'ailleurs avec une discrétion parfaite. Un nouveau silence, qui dura une bonne heure, s'établit encore. Rien ne troubla cette nouvelle halte dans la conversation, pas même l'apparition du chien de la maison, l'honnête Lento, qui, non moins flegmatique que son maître, vint faire poliment un tour de parloir. « Digne chien !» Un modèle pour tous ceux de son espèce. Il eût été en carton avec des roulettes aux pattes qu'il n'eût pas fait moins de bruit pendant sa visite. Vers 8h, après que Loche eut apporté la lampe antique à verre dépoli, le bourgmestre dit au conseiller « Nous n'avons pas d'autre affaire urgente à expédier, Niklos ?»« Non, Ventricas, aucune que je sache. » « Ne m'a-t-on pas dit, cependant, demanda le bourgmestre, que la tour de la porte d'Audenarde menaçait ruine ?»« En effet, répondit le conseiller, et vraiment, je ne serais pas étonné qu'un jour ou l'autre, elle écrasât quelques passants. »« Oh, reprit le bourgmestre, avant qu'un tel malheur arrive, j'espère bien que nous aurons pris une décision à l'endroit de cette tour. » « Je l'espère, Ventricas. Il y a des questions plus pressantes à résoudre. »« Sans doute, » répondit le conseiller. « La question de la halle au cuir, par exemple. »« Est-ce qu'elle brûle toujours ?» demanda le bourgmestre. « Toujours, depuis 3 semaines. »« N'avons-nous pas décidé en conseil de la laisser brûler ?»« Oui, Ventricas, et cela sur votre proposition. » N'était-ce pas le moyen le plus sûr et le plus simple d'avoir raison de cet incendie, sans contredit? Eh bien, attendons. C'est tout? C'est tout, répondit le conseiller qui se grattait le front, comme pour s'assurer qu'il n'oubliait pas quelque affaire importante. Ah, fit le bourgmestre, n'avez-vous pas entendu parler aussi d'une fuite d'eau qui menace d'inonder le bas quartier de Saint-Jacques? « En effet, » répondit le conseiller, « il est même fâcheux que cette fuite d'eau ne se soit pas déclarée au-dessus de la halle au cuir. Elle eût naturellement combattu l'incendie et cela nous aurait épargné bien des frais de discussion. « Voulez-vous, Niklos ?» répondit le digne bourgmestre. « Il n'y a rien d'illogique que comme les accidents. Ils n'ont aucun lien entre eux, et l'on ne peut pas, comme on le voudrait, profiter de l'un pour atténuer l'autre. » Cette fine observation de Vandrikas exigea quelque temps pour être goûtée par son interlocuteur et ami. « Eh mais, reprit quelques instants plus tard le conseiller Niklos, nous ne parlons même pas de notre grande affaire. » « Quelle grande affaire ? Nous avons donc une grande affaire ?» demanda le bourgmestre. « Sans doute. Il s'agit de l'éclairage de la ville. »« Ah, oui, répondit le bourgmestre. Si ma mémoire est fidèle, vous voulez parler de l'éclairage du docteur Oix ?»« Précisément. Eh bien, cela marche, Niklos, répondit le bourgmestre. On procède déjà à la pose des tuyaux. » Et l'usine est entièrement achevée. Peut-être nous sommes-nous un peu pressés dans cette affaire, dit le conseiller en hochant la tête. Peut-être, répondit le bourgmestre, mais notre excuse, c'est que le docteur Oix fait tous les frais de son expérience. Cela ne nous coûtera pas un denier. C'est en effet notre excuse, puis il faut bien marcher avec son siècle. Si l'expérience réussit, « Quiquendone sera la première ville des Flandres, éclairée au gaz... Comment appelle-t-on ce gaz-là ?»« Le gaz oxyhydrique. »« Va donc pour le gaz oxyhydrique. » En ce moment, la porte s'ouvrit et Lotché vint annoncer au bourgmestre que son souper était prêt. Le conseiller Niklos se leva pour prendre congé de Vandrikas, que tant de décisions prises et tant d'affaires traitées avait mis un appétit. Puis il fut convenu que l'on assemblerait dans un délai assez éloigné le conseil des notables afin de décider si l'on prendrait provisoirement une décision sur la question véritablement urgente de la tour d'Audenarde. Les deux dignes administrateurs se dirigèrent alors vers la porte qui s'ouvrait sur la rue, l'un reconduisant l'autre. Le conseiller, arrivé au dernier palier, alluma une petite lanterne qui devait le guider dans les rues obscures de Quiquendone, que l'éclairage du docteur Oix n'illuminait pas encore. La nuit était noire, on était au mois d'octobre et un léger brouillard embrumait la ville. Les préparatifs de départ du conseiller Niklos demandèrent un bon quart d'heure, car, après avoir allumé sa lanterne, il dut chausser ses grosses socques articulées en peau de vache et ganter ses épaisses moufles en peau de mouton. Puis il releva le collet fourré de sa redingote, rabattit son feutre sur ses yeux, assura dans sa main son lourd parapluie à bec de corbin et se disposa à sortir. Au moment où Lotché, qui éclairait son maître, allait retirer la barre de la porte, un bruit inattendu éclata au dehors. Oui, dut la chose paraître invraisemblable, un bruit, un véritable bruit, tel que la ville n'en avait certainement pas entendu depuis la prise du donjon par les Espagnols en 1513, un effroyable bruit éveilla les échos si profondément endormis de la vieille maison Vandrikas. On heurtait cette porte, vierge jusqu'alors de tout attouchement brutal. On frappait à coups redoublés avec un instrument contondant qui devait être un bâton noueux manié par une main robuste. Aux coups se mêlaient des cris, un appel. On entendait distinctement ces mots « Monsieur Vandrikas, monsieur le bourgmestre, ouvrez, ouvrez vite !» Le bourgmestre et le conseiller, absolument ahuris, se regardaient sans mot dire. Cela passait leur imagination. On eût tiré dans le parloir la vieille couleuvrine du château qui n'avait pas fonctionné depuis 1385 que les habitants de la maison Vandrikas n'auraient pas été plus épatés qu'on nous passe ce mot qu'on excuse sa trivialité en faveur de sa justesse. Cependant, les coups, les cris, les appels redoublaient. Lotché, reprenant son sang-froid, se hasarda à parler. « Qui est là ? » demanda-t-elle. « C'est moi, moi, moi !»« Qui, vous ?»« Le commissaire Passoff !» Le commissaire Passoff, celui-là même dont il était question, depuis 10 ans, de supprimer la charge. Que se passait-il donc ? Les Bourguignons auraient-ils envahi Quiquendone comme au XIVe siècle? Il ne fallait rien de moins qu'un événement de cette importance pour émotionner à ce point le commissaire Passoff, qui ne le cédait en rien, pour le calme et le flegme, au bourgmestre lui-même. Sur un signe de ventricasse, car le digne homme n'aurait pu articuler une parole, la barre fut repoussée et la porte s'ouvrit. Le commissaire Passoff se précipita dans l'antichambre. On eût dit un ouragan. « Qu'y a-t-il, monsieur le commissaire ?» demanda Loche, une brave fille qui ne perdait pas la tête dans les circonstances les plus graves. « Ce qu'il y a !» répondit Passoff, dont les gros yeux exprimaient une émotion réelle. « Il y a que je viens de la maison du docteur Ouix, où il y avait réception, et que là... »«
Là ?» fit le conseiller.
« Là, j'ai été témoin d'une altercation telle que, monsieur le bourgmestre, on a parlé politique. »«
Politique ?»
répéta Ventricasse en hérissant sa perruque. « Politique !» reprit le commissaire Passoff. « Ce qui ne s'était pas fait depuis 100 ans, peut-être, à Quiquendone. Alors, la discussion s'est montée. L'avocat André Schout et le médecin Dominique Custos se sont pris à partie avec une violence qui les amènera peut-être sur le terrain.
« Sur le terrain ?» s'écria le conseiller. « Un duel ? Un duel à Quiquendone ? Et que se sont donc dit l'avocat Schout et le médecin Custos ?»«
Ceci textuellement. Monsieur l'avocat, a dit le médecin à son adversaire, vous allez un peu loin, ce me semble, et vous ne songez pas suffisamment à mesurer vos paroles. » Le bourgmestre Ventricasse joignit les mains, le conseiller pâlit, et laissa choir sa lanterne. Le commissaire hocha la tête. Une phrase, si évidemment provocatrice, prononcée par deux notables du pays.
« Ce médecin Custos, murmura Ventricasse, est décidément un homme dangereux, une tête exaltée. Venez, messieurs. »
Et sur ce, le conseiller Niklos et le commissaire rentrèrent dans le parloir avec le bourgmestre Ventricasse. Thank you.